le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. La MONUSCO salue la coopération avec les FARDC dans la traque des bandits et groupes armés dans l'est du pays. Des illustrations de cette coopération lors de la conférence hebdo des Nations Unies, mercredi dernier. Entre-temps, au moins 14 journalistes assassinés ces dernières années en RDC. C'est trop, il faut que ça s'arrête, estiment les participants à un forum organisé à Kinshasa. 2000 km de routes de dessertes agricoles réhabilitées, 4 marchés et une dizaine d'entrepôts construits et fonctionnels. Le projet d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole est en train de remplir son mandat. Un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de dollars américains. Dans cette édition, le chef de projet de cette institution pour nous en dire un peu plus. Et puis 39 monnaies sur le continent, c'est trop. Et pour la Fédération monétaire économique, c'est par là que passe le salut de l'Afrique. Déclaration du directeur régional du CNUT, Abdoulaye Mardié, était la semaine dernière à Kinshasa dans le cadre de la 10e conférence économique africaine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et merci d'être avec nous pour ce magazine des Nations Unies. La MONUSCO salue sa coopération avec les FARDC dans une stratégie commune de traque des groupes armés dans l'est du pays, position défendue mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Ceci suite à la recrudescence des enlèvements des civils et pillages dans l'est du pays. Jean-Pierre Elali Coco, vous êtes là pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Tina. Il ne se passe pas un jour sans que la quiétude des paisibles citoyens ne soit perturbée par des pillages, enlèvements, meurtres, et notamment à Beni, à Rutshuru, au nord Kivu et dans le haut et bas Ouélé. Ces actes sont le fait des bandits et groupes armés. Dimanche 1er novembre, par exemple, 14 travailleurs humanitaires d'une organisation non gouvernementale congolaise ont été enlevés à Rutshuru. Ils ont pu recouvrer la liberté grâce à l'intervention des FARDC, mais aussi grâce aux nombreuses pressions, notamment cet appel du coordonnateur humanitaire Mamadou Diallo demandant instamment aux combattants de libérer les otages. C'est pourquoi la MONUSCO réaffirme et salue sa coopération avec les FARDC sur le terrain des opérations. Pour preuve, cette illustration du lieutenant-colonel Amouzoun Kodjo Martin, porte-parole militaire.
Depuis le 29 octobre 2015, les FARDC, appuyés par la force de la MONUSCO, exercent des pressions militaires sur les éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF dans les territoires de Bénin. Un nombre important de criminels ADF ont été tués et blessés.
Autre illustration, c'est cette détermination affichée du général Carlos Dos Santos Cruz, chef des forces de la MONUSCO. Pour lui, la mission, c'est neutraliser tous les groupes armés et autres bandits.
Pour moi, il n'y a pas de différence entre bandits et groupes armés. Pour moi, ils sont tous bandits. La stratégie opérationnelle, c'est l'élimination des bandits. C'est la neutralisation des groupes armés.
Alors, Félix Bassé, porte-parole de la MONUSCO, précise, les premières responsables pour la protection des civils, c'est bien les FARDC.
La responsabilité première appartient aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là dans un rôle de substitution, je le rappelle, mais dans un rôle d'appui, dans un rôle de soutien, dans un rôle d'accompagnement.
Merci Jean-Pierre Elali. Ikoko, autre actualité, au moins 14 journalistes assassinés ces dernières années en RDC sans que leurs auteurs soient punis à l'issue des procès équitables. C'est en tout cas le constat fait ce mardi au cours du forum organisé par le ministère des Communications et Médias, également l'UNESCO, à Kinshasa. C'était à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour des crimes commis contre les journalistes. Selon les participants, des actions doivent être menées envers les pouvoirs publics pour mettre fin à cette impunité. Je vous invite à suivre ce reportage de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Dans son mot d'introduction, Kasongo Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, a dénoncé les assassinats des journalistes congolais. Il a déploré aussi le fait qu'aucun procès n'ait abouti. Il interpelle le pouvoir public.
Aucun procès n'a abouti et nous n'avons jamais su qui a tué. Pourquoi a-t-il tué? Qui l'a commandité pour tuer? C'est ça le combat que nous menons jusqu'à ce jour. L'occasion nous est donnée de revenir pratiquement chaque année pour demander aux détenteurs du pouvoir public de faire en sorte que tous nos confrères qui ont été assassinés, ne fût-ce que pour l'histoire, puissent être rétablis dans leurs droits.
Fassa Tombissa, journaliste et enseignant à l'Académie de Beaux-Arts, s'est penché sur la relation entre la sécurité du journaliste et droit à la liberté d'expression et à l'information. Et pour l'intervenant, le journaliste doit se serrer les coudes.
Mais ceux qui sont souvent désignés comme victimes, c'est nous. Et c'est nous qui devons, en fait, au sein de notre corps, réfléchir à la meilleure façon de constituer une force, laquelle force, à son tour, peut agir sur les autres forces sociales.
Israël et Désiré Kazadi a centré son intervention sur l'impact psychologique de journalistes travaillant dans un milieu hostile.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Mardi 3 novembre dernier, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage a organisé à Kinshasa un atelier de présentation des résultats de l'évaluation de l'impact du projet d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole par sa 11 sigles. Cela après une étude de terrain menée par une mission de l'école d'économie de Paris. En marge de cet atelier, le chef de projet de la Banque mondiale, Bureau RDC, s'est confié au magazine des Nations Unies. Selon M. Amadou Omar Ba, à une année de l'échéance, le projet PARSA a déjà considérablement accompli sa mission. Monsieur Amadou Omar Ba s'entretient avec Honoré Missinga Kalala.
Monsieur Amadou Omar Ba, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes chargé de projet PARSA au bureau de la Banque mondiale, RDC. En quoi consiste en gros le projet PARSA?
Le projet PARSA veut dire projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole. Il a été conçu en 2008 au moment de la crise alimentaire. Il visait à vraiment réhabiliter les structures de production agricole, aussi bien au niveau de l'administration, mais aussi au niveau des opérateurs producteurs. Ce projet a été approuvé par la banque en 2010, avec pour objectif d'améliorer la productivité agricole dans la zone d'intervention du projet. Donc, qui dit projet agricole parle aussi de productivité végétale, mais également animale. Le projet est focalisé sur 4 à 5 filières principales, notamment le manioc, le riz, le maïs, l'arachide et le soja. Le projet est dans l'ancienne province de l'Équateur, particulièrement dans la partie nord. C'était les anciens districts de la Mongala, du Nord-Bangui et du Sud-Bangui, qui sont devenus des provinces à part entière.
Alors vous avez parlé des questions clés pendant la conception du projet. Quelles sont ces questions?
Quand on veut relancer l'agriculture, améliorer la productivité, la première donne, la première contrainte, c'est l'accès à la semence. Il fallait faire en sorte qu'il y ait un marché semencier dans la zone, que la filière semencière soit réhabilitée dans toutes ses composantes et que les producteurs des spéculations puissent avoir accès à de bonnes semences, des semences de qualité et certifiées. Ça, c'est la première question clé qu'il fallait régler. La deuxième question clé et qui n'est pas des moindres, c'est l'accessibilité de la zone. La zone est réputée enclavée. On a identifié environ 6000 km de pistes de recettes agricoles qui existent dans la zone répertoriée par la DVDA. Il fallait développer les infrastructures d'accessibilité, donc désenclaver les zones de production pour les rattacher soit au centre de consommation ou au marché. La troisième question clé, elle est liée aux capacités de l'administration, aux capacités des structures qui sont en charge d'accompagner tout le mouvement de réhabilitation et de relance agricole, notamment même les producteurs organisés en association de producteurs, également les autres institutions que sont l'INERA, le CNACM, qui sans elles, on ne peut pas relancer la filière agricole. Donc voilà un peu les trois questions clés qui nous ont préoccupés au début de la mise en œuvre du PARSA, de la préparation, et qui constituent aujourd'hui les trois principales composantes du projet.
Comment vous y avez répondu à ces trois questions?
Nous y avons répondu dans le design du projet, en faisant de chacune de ces questions une composante, comme je le disais tout à l'heure, à part entière du projet. On a une composante qui s'occupe de l'amélioration de la productivité agricole, donc qui vise d'un côté la production végétale, centrée principalement autour de la filière semencière, mais également de la vulgarisation agricole, comment porter le bon message auprès des producteurs pour qu'ils développent leur productivité, également centré autour du développement de micro-projets qui permettent d'améliorer tout ce qui est lié un peu à la transformation des produits agricoles. Le deuxième élément qui est une sous-composante de cette première composante, c'est l'amélioration de la productivité animale, où l'essentiel c'était de voir comment restaurer la productivité des boucs et des coqs dans la zone qui sont en état de dégénérescence avancée. Donc le projet a importé des coques améliorateurs et des boucles de l'Ouganda qui sont aujourd'hui peuplées dans l'Équateur et qui permettent d'améliorer, chemin faisant, le potentiel génétique de ces bêtes. Et nous avons répondu à la deuxième question clé par la composante du projet qui est celle de l'amélioration des infrastructures de marché. Donc j'ai parlé tantôt de 2500 km de routes de déserts agricoles qui sont en cours de réhabilitation. Aujourd'hui, le projet en a réhabilité presque 2000. Et aussi la construction d'infrastructures de marché en des endroits bien précis et d'entrepôts, de grands entrepôts qui permettent aux producteurs de regrouper leur production en vue d'une meilleure commercialisation. Et enfin, à la troisième question clé, dans le design du projet, on a incorporé une composante de renforcement des capacités des services publics et des services d'appui, que sont notamment le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, le ministère du Développement Rural, mais également les institutions clés pour le développement et l'amélioration de la productivité agricole.
Alors, l'échéance du projet, c'est janvier 2017. À plus ou moins une année, quel est le trajet parcouru?
À ce jour, on peut dire que le projet a considérablement rempli son mandat. Nous venons de terminer une mission d'appui à la mise en œuvre au mois d'octobre. Le taux de décaissement des fonds, c'est un projet de 120 millions de dollars, est de l'ordre de 86%, donc il reste 14% à décaisser. En termes d'acquis, la production de semences aujourd'hui établie dans l'Équateur, l'INERA Boketa est réhabilitée depuis longtemps. Le SANASEM, qui n'a jamais eu une représentation dans l'Équateur, aujourd'hui est installé au niveau de Guémena, avec un laboratoire qui est en cours d'être équipé. Les agrimultiplicateurs ont été sélectionnés et formés par le SANASEM et aujourd'hui produisent des semences de qualité. La quantité n'est pas encore suffisante, c'est vrai, mais c'est un processus qui est en cours. Jusqu'à présent, le processus de production était subventionné par le projet, mais ça va s'arrêter maintenant pour qu'on revienne à la vérité des prix sur un marché semencier local. En termes d'amélioration de la circulabilité, sur les 2500 km de pistes agricoles qui sont visées, environ 2000 sont déjà réhabilitées, le reste est en cours. Et naturellement, il y a les 4 marchés qui sont déjà construits. Sur 16 entrepôts, il y en a une dizaine qui sont totalement achevés et remis. Le reste est en état très avancé, à peu près à 80%. Le projet devait se clôturer le 15 décembre 2015. On a rajouté 13 mois pour permettre d'une part au projet de bien achever le mandat qui lui a été confié, de consommer les fonds à 100%. Mais aussi de réfléchir à la suite à donner au projet avec le gouvernement. Nous envisageons déjà au niveau de la Banque mondiale, avec l'accord du gouvernement bien entendu, de considérer un financement additionnel au projet qui puisse donc étendre ses moyens sur quelques années supplémentaires et permettre de consolider durablement les acquis qui ont été produits pendant cette phase initiale.
Donc vous pensez déjà à l'après-projet, hein?
Absolument, on pense à l'après-projet parce que dès lors qu'on commence à préparer un projet, déjà, il faut concevoir son design dans la perspective d'un après-projet. On dit, idéalement, un bon projet, c'est celui qui travaille à se faire disparaître. Donc c'est dans cette perspective que nous avons conçu le projet et c'est la raison pour laquelle nous avons misé sur le renforcement des capacités de l'ensemble des structures d'appui à l'amélioration de la productivité agricole, végétale et de... Nous avons donc renforcé les capacités de l'INERA. Le SANASEM est désormais installé. Il y a un laboratoire vétérinaire que je n'ai pas mentionné tout à l'heure qui est construit à Guémena, qui va permettre au moins d'analyser les épizooties qui se passent dans la zone et apporter les soins qu'il faut en temps réel. Et naturellement, il y a partout aujourd'hui des organisations de producteurs, lesquelles sont désormais organisées en union d'organisations de producteurs, qui sont répertoriées, qui sont reconnues et qui travaillent pour maintenir les acquis du projet dans la durée. Et on a aussi introduit un système de caisses villageoises autogérées qui sont gérées au niveau de ces unions, qui permettent à ces unions de se cotiser de l'argent, de mettre dans une caisse pour permettre par exemple l'achat des semences, l'achat des vaccins, mais également organiser la commercialisation de leurs produits. Donc tout ceci entre dans le sens de la pérennisation des acquis après le projet.
Monsieur Amadou Maba, merci.
Merci beaucoup. Merci à Radio Kopé.
Nouvelle en bref, 2000 combattants, ex-combattants étaient sensibilisés la semaine dernière aux questions liées au VIH et au SIDA par la section VIH-SIDA de la MONUSCO. Information livrée mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. La campagne a duré 7 jours. Les sensibilisateurs ont également prodigué des conseils aux ex-combattants et encouragé le dépistage volontaire et gratuit sur le VIH, surtout chez les femmes ex-combattantes. La section VDR de la MONUSCO a collaboré à l'organisation de cette activité. Les sites de déplacés de Loussoudi, Chacha et Lac Vert fermés. Nous sommes au Nord Kivu. L'Organisation internationale pour les migrations OIM a annoncé cette fermeture. Les pensionnaires de ces sites ont été accompagnés pour rejoindre d'autres sites de déplacement, rentrer dans leur village d'origine ou s'installer ailleurs dans des milieux de leur choix. Une assistance alimentaire d'une durée de 3 mois et un kit d'accompagnement étaient fournis à ces personnes à leur arrivée dans les zones de retour, d'intégration ou de réinstallation. Enfin, restons dans l'est du pays, cette fois au sud Kivu, où une centaine d'agents du commissariat urbain et du groupement mobile d'intervention de la police nationale congolaise d'Uvira sont en formation depuis le 2 novembre 2015. Une formation de 2 semaines assurée par UNPOL, la police de la MONUSCO, dans le cadre du renforcement des capacités en sécurisation du processus électoral. Cette formation comprend plusieurs modules, notamment les renseignements généraux, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, gestes et techniques professionnelles d'intervention et gardes statistiques.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Il s'est tenu à Kinshasa du 2 au 4 novembre 2015, la semaine dernière donc, la 10e conférence économique africaine. Le forum a réuni décideurs, praticiens du développement et chercheurs pour discuter de politiques visant à éliminer la pauvreté et affronter les inégalités en Afrique dans la vision des objectifs du développement durable ODD. Le bureau régional du PNUD d'Afrique a pris une part active à ses travaux. Son sous-secrétaire général et directeur, Abdoulaye Mardiaye, est l'invité du magazine des Nations Unies. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Monsieur Abdoulaye Mardiaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa, vous participez à la conférence économique africaine. Est-ce que vous pouvez dire à l'opinion africaine l'intérêt de ce forum?
L'intérêt de ce forum, c'est d'abord de célébrer les performances économiques de l'Afrique que nous avons constatées depuis l'an 2000, une croissance économique impressionnante de 5%. Célébrer ces performances, mais reconnaître qu'il y a des limites, notamment dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Et que donc, nous sommes réunis ici, sous l'égide du gouvernement de la RDC, avec l'invitation des ministres venant d'autres pays et surtout co-organisée par la Banque africaine de développement, la CEA et le PNUD pour mettre en place des stratégies de politique publique pour voir un peu comment accélérer nos efforts dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités.
Oui, ce forum est le 10e depuis l'institution de cette conférence. Est-ce que ce forum a une particularité par rapport au précédent?
Oui, ce forum essaie chaque année de mettre en exergue une priorité de développement. Au moment où nous transitons des OMD, les objectifs millénaires pour le développement vers les objectifs de développement durable, nous nous sommes rendus compte que 2 éléments essentiels pouvaient un peu gêner cette transition. Le fait que nous avons en Afrique accusé des retards sur la lutte contre la pauvreté et le fait que les inégalités de toute nature plombent encore le développement du continent. Donc, on a voulu que cette transition se gère très bien et donc nous sommes réunis pour voir quelles sont les politiques publiques à mettre en place pour une gestion optimale de cette transition.
Ce qui explique le choix de cette thématique.
Le choix de cette thématique, comme je vous dis, c'est que nous voulons que le 31 décembre, lorsqu'on aura fini entre guillemets les OMD, que ce ne sera pas l'épitaphe des OMG, c'est-à-dire qu'on n'enterre pas les OMD, parce que c'est une symphonie qui n'est pas finie au niveau du continent. Elle doit continuer. Et c'est un peu cette alerte que nous avons voulu sonner en disant que, écoutez, c'est vrai que l'Afrique a fait des performances, mais nous avons encore des freins qui nous retardent, et ces freins majeurs sont la pauvreté et les inégalités, que nous appelons un peu des dénis d'humanité, et il faut s'en occuper.
On n'enterre pas les OMD au 31 décembre 2015. En fait, quelle leçon l'Afrique a dû tirer des OMD?
La grande leçon, c'est que il est vrai que la croissance économique est importante. On a vu qu'avec 5% de croissance économique, on a quelque peu réduit la pauvreté, mais le rythme de réduction est très lent. Nous réduisons la pauvreté au rythme d'un demi-point par an. C'est pas suffisant. Il faut aller au-delà d'un point par an. Et donc, c'est extrêmement lent. Et que c'est lent parce que le plateau de croissance est encore relativement faible, même si c'est 5% la meilleure croissance du monde. Les experts nous disent qu'il faut aller au-delà de 7% pour avoir un impact. Mais en plus de la croissance qui, elle, ne suffit pas, il faut développer un peu la résilience des économies. Et la résilience des économies passe par ce qu'on appelle la transformation structurelle, ou en des termes un peu moins prosaïques, la diversification de nos économies. Nous avons encore des économies très unipolaires, c'est-à-dire basées essentiellement sur 1 ou 2 produits. Et on ne peut pas assurer une résilience de l'économie dans ce cas-là.
Monsieur Abdoulaye Mardiaye, pensez-vous que l'Afrique peut avoir une vision commune, mettre en œuvre des stratégies communes pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, alors que ce continent peine à concrétiser dans les faits son intégration économique.
C'est une question fondamentale. Aucun de nos pays ne peut maximiser sa diversification lorsque nous sommes encore victimes de la tyrannie de notre balkanisation. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est le message que je ne cesse de répéter. L'Afrique ne peut se développer que si elle est unifiée. Et moi, je suis terrifié, par exemple, je l'ai dit à la conférence, de constater que dans notre continent, nous avons encore 39 monnaies qui circulent. Ce n'est pas possible. La transaction monétaire est complètement compliquée et difficile. Et on l'a vécu ici, quelqu'un qui vient du Sénégal, pour pouvoir avoir la monnaie locale ici, doit amener les dollars. Ce n'est pas possible. Cette fédération monétaire est importante. Au-delà de la fédération monétaire, cette fédération économique est importante. C'est le salut pour l'Afrique.
Alors, selon vous, quels sont les pesanteurs qui font que l'Afrique a du mal à assumer son intégration?
Beaucoup de pesanteurs, je dirais, il y a des pesanteurs culturels. Le fait qu'une bonne partie de nos sœurs, ou des femmes, de nos mamans, sont exclues, entre guillemets, du processus de développement nous coûte cher. Nous avons fait des calculs et nous avons vu qu'au niveau du PIB, l'écart genre nous coûte en moyenne annuelle 73 milliards de dollars. Alors ça, c'est 4 à 5% de PIB perdu. Ça, c'est une grande pesanteur qu'il faut régler. Deuxième pesanteur, c'est au niveau de la gouvernance, qui doit être une gouvernance vertueuse, parce que cette absence, disons, d'état de droit solide fait qu'une bonne partie des flux financiers sortent du continent. 60 milliards de dollars par an. C'est encore 3 à 4% du PIB perdu. Notre pesanteur, c'est que nos économies se modernisent, mais notre fiscalité ne se modernise pas. Nous ne préconisons pas, disons, l'augmentation des taux de fiscalité, mais que la couverture fiscale soit meilleure. Je donnais un chiffre en disant que dans les pays de l'OCDE, ce qu'on appelle la pression fiscale, c'est-à-dire le taux de fiscalité par rapport au produit intérieur brut, est de 40%. Et dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est de 30%. En Afrique, c'est de 14, 15, 16, 17%. Et là, je suis généreux en disant 14, 15, parce que si on enlève un peu les ressources pétrolières, c'est des taux de pression fiscale de 10, 12, 13%. Songez qu'un pays comme le Nigeria, le géant de l'Afrique, a une pression fiscale de 9%. Ce n'est pas possible. On ne peut pas développer une économie dans ce cadre-là.
Monsieur le directeur régional, certaines voix soutiennent que pour combattre efficacement la pauvreté, il faut au préalable que l'Afrique, disons les États membres, maîtrisent le savoir et les innovations techniques. Donc, il faut investir plus dans l'éducation et la recherche. Comment le PNUD analyse cette vision des choses?
Et c'est juste qu'il y a un économiste britannique il y a très longtemps, Joseph Schumpeter, qu'on appelle le pape de l'innovation, et il avait raison de dire que l'innovation, c'est la monnaie du développement. Et c'est important. Le modèle de développement qui pense que la croissance économique est fonction seulement du capital et du travail est un modèle désuet. Ça ne vous amène pas loin. Et donc, c'est cette créativité qui fait le développement. Donc, investir dans la créativité est important pour le développement. Au niveau du PNUD, nous faisons ce qu'on appelle les business promotion centers, ou des pépinières, où on donne à des jeunes entrepreneurs la facilité d'entreprendre, mais surtout de créer. La création nous surprend quelquefois dans le sens où monte nos espérances à des cimes, à des niveaux extrêmement élevés. Et c'est parce qu'on ne donne pas souvent l'espace à cette créativité que nous avons des limites dans le développement. Tout à l'heure, on disait qu'on a des taux de croissance de 5% et qu'on ne voyait pas comment monter de 5% à deux chiffres, mais ouvrons la créativité où nous allons voir comment nos talents peuvent éclore. Et je l'ai vu dans certains pays, j'ai vu au Bénin des centres de promotion, disons, de l'entrepreneuriat où des jeunes, surtout des jeunes filles, avec les universités et les communautés, travaillent ensemble pour créer de la valeur. J'ai vu au Kenya des jeunes qui s'investissent dans la téléphonie mobile, par exemple. Songez qu'en Afrique, il y a des jeunes qui ont créé même des téléphones mobiles. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà. Donnons à la jeunesse cet espace de créativité et on aura résolu notre problème de développement.
Monsieur le directeur régional, l'échéance des ODD, c'est 2030. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a des atouts pour réussir ce pari?
Absolument, mais il nous faut infléchir la tendance. Si on continue sur cette tendance de croissance de 5% avec les niveaux d'inégalité que nous verrons, que nous avons actuellement, nous allons mettre du temps pour y arriver. Et nos estimations montrent que l'objectif de réduction de la pauvreté de moitié, en utilisant la base 1990, donc réduire de moitié en 2015, nous n'allons pas y arriver. Il va nous falloir encore, à ce rythme, 10 ans supplémentaires. L'Afrique doit apprendre à courir le marathon avec un mental de sprinter. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que nous ayons cette réunion ici à Kinshasa, parce qu'il y a un animal qui court le marathon avec un esprit de sprinter, c'est le léopard. Donc, si on est inspiré un peu par ce mental du léopard, l'Afrique va y arriver.
Et quelle va être la part concrète du PNUD dans ce marathon?
Le PNUD, de par sa philosophie, appuie les gouvernements. Et la course actuelle, c'est maintenant que les chefs d'État ont approuvé l'agenda 2030 ou l'agenda post-2015, il faut aller très très vite et essayer de les domestiquer dans nos politiques publiques. On a commis énormément de retard au niveau des OMD. Rappelez-vous, la déclaration du millénaire, c'était en 2000. Et ce n'est que très tard qu'on a mis en place des cadres d'intériorisation de ces OMD dans les politiques publiques. Très tard. On a perdu 4-5 années. Et c'est une leçon qu'on a apprise. C'est pourquoi le PNUD est en train, dès à présent, de mettre en place un cadre stratégique de domestication, comme on dit dans notre jargon, des ODD dans les politiques de développement. Et donc, ce cadre est pratiquement prêt. Et que donc, le 1er janvier, on peut déjà commencer à internaliser ces objectifs dans les politiques publiques.
Monsieur le directeur du niveau régional, merci.
Je vous remercie.
Quelques nouvelles de nos provinces à présent. Les cadres et agents des services de l'État œuvrant aux frontières du Sud Kivu ont clôturé vendredi passé un atelier de renforcement des capacités qui a duré 5 jours à Bukavu sous les auspices de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. La formation était principalement axée sur la gestion humanitaire et intégrée des frontières à l'intention des cadres et agents de la DGDA, OCC, DGM, PNF, SCOAV, Police des frontières de la PNC, ANER et RM. Le représentant de l'Organisation internationale National pour les migrations, OIM Sud Kivu, Maxime Onguet, s'exprime au micro de Jean Kassami.
Bien sûr, cet atelier, il est permis d'améliorer leurs capacités de gestion de frontières en situation de crise migratoire, notamment en étudiant les méthodes d'enregistrement et d'identification d'immigrants vulnérables. Les participants se sont également pencher sur les mécanismes de coordination, de gestion des frontières en cas de crise migratoire et ont clarifié leur rôle des différentes entités présentes aux frontières. Les formateurs sont issus de la DGM Kinshasa, DGDA, PNAF, HF. L'OIM s'inscrit dans le renforcement des capacités opérationnelles des services appelés EVRES aux frontières par la formation des agents et leur équipement. C'est ainsi que l'OIM a eu à former les officiels du secteur migratoire en province orientale, les équiper au Nord Kivu et aujourd'hui nous sommes au Sud Kivu.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question ce dimanche concerne la CENI. Elle est posée par notre confrère Théodore Nguindou de Télé 7. Et c'est Félix Basse, porte-parole de la MONUSCO, qui répond.
Théodore Nguindou au compte de Télé 7. Je voudrais savoir quel rôle la MONUSCO, au jour d'aujourd'hui, peut jouer pour arriver à décrisper la situation qui prévoit actuellement à la CENI, qui semble, selon certains observateurs, bloquer les déroulements normaux du processus électoral, avec la démission du vice-président et d'autres qui pourront peut-être s'en suivre. Bon, c'est pas la position de la MONUSCO par rapport à cette situation et laquelle.
Merci pour votre question, votre préoccupation qui, il faut le relever, est d'une importance capitale parce que nous nous acheminons progressivement vers la phase des élections. Ce que je voudrais tout simplement rappeler, c'est que il incombe aux acteurs politiques et aux Congolais de voir comment résoudre tous les problèmes qui se posent justement à ce processus électoral pour qu'une solution puisse être trouvée. Ce que nous pouvons dire, tout simplement, c'est que nous réitérons l'indépendance de la CENI pour un processus électoral crédible dans lequel les résultats qui sortiront des urnes vont correspondre exactement à l'expression de la volonté des Congolais. Évidemment, cette question nous interpelle au plus haut point et nous ne cessons de mettre en œuvre toutes nos synergies pour inviter les différents acteurs à créer un espace de dialogue et je pense très bien d'ailleurs que cette préoccupation que vous venez de soulever, je pense que suite à une réunion interinstitutionnelle qui a été tenue très récemment ici à Kinshasa, je pense que tout le monde s'est accordé sur la même vision qui consiste à favoriser ou mettre tout en œuvre pour que justement le processus puisse se poursuivre.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Je m'appelle Yachim Yakuba Meïka, je suis d'origine malienne, marié, père de 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Je suis de formation ingénieur, qui a vite fait de laisser le métier d'ingénieur pour se consacrer à la communication. Au sein de la MONUSCO, je suis le chef de l'unité multimédia, une nouvelle section créée au sein de la division information publique qui prend en charge la vidéo, la photo, le web et les réseaux sociaux. Je suis là à la MONUSCO depuis le 27 septembre 2015 et je viens de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, où j'ai eu à travailler dans le domaine de la communication pendant une dizaine d'années avant de me retrouver au niveau des affaires politiques et civiles. Mes tâches quotidiennes en tant que chef de l'unité multimédia de la division information publique consistent à promouvoir, à rendre visibles les activités de la MONUSCO sur le terrain et à l'intérieur de la mission, tant sur les plateformes des réseaux sociaux que sur le web, qu'au niveau des télévisions et aussi de la photo. Nous produisons et diffusons un magazine de 15 minutes hebdomadaires qui s'appelle Unimag. Et nous diffusons régulièrement, nous postons, j'allais dire, régulièrement sur les plateformes et les websites les activités, le travail du quotidien de la MONUSCO. Voilà, si je peux dire, à quoi ressemble mon parcours quotidien au niveau de la MONUSCO. Où je dois dire, sans être le moins âgé, je suis le Benjamin au niveau de la division information publique. Mon temps libre, je dois dire que depuis que je suis là, je n'ai vraiment pas de temps libre. Mais quand cela me tienne, dès que j'ai un temps libre, j'aime faire la cuisine. J'adore faire la cuisine, je fais le sport. Mais ma passion, la vraie, c'est vraiment la lecture. Je pense que je vais mettre très rapidement à la lecture pour découvrir la culture fantastique de ce grand pays qu'est la RDC. Je dois dire que, pas que j'adore la musique congolaise avant de venir au Congo est connue. Et je me rappelle encore, j'avais 18 ans quand j'ai assisté pour la première fois au concert du Seigneur Oshiro à Bamako au Mali, c'était en 1978. Et je peux dire même que la musique congolaise est au plus connue au Mali qu'au Congo. J'ose le dire. Projet d'avenir, j'ai 55 ans. Peut-être que j'ai envie de, après les Nations Unies, de m'amuser, de faire le chant, de faire le paysan, et de m'occuper de mes petits-enfants, parce que je suis grand-père d'un petit garçon de 8 mois, né de ma première fille qui est mariée il y a 2 ans. Je dois dire que voilà, je suis au Congo il y a juste un mois, 2 jours. Je peux juste dire au bon Dieu Karibou. Merci à tous les auditeurs.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un rendez-vous international à noter dans votre agenda. Du 10 au 13 novembre 2015 se tiendra à Kinshasa la Foire internationale des énergies renouvelables à Kinshasa donc. Un rendez-vous dans lequel est impliqué le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Et c'est la fin de votre magazine des Nations Unies qui a été coordonné cette semaine par Jean-Pierre Elali Coco, au reportage Honoré Missenga, à la mise en onde Jean-Claude Mtiala. Je suis Tina Salama. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à très bientôt. Vous voulez réécouter ce magazine, vous savez quoi faire. Rendez-vous sur notre site internet www.radiocapi.net. À bientôt.